Bonjour mes frères et mes sœurs. Êtes-vous vraiment membre de l'Église de Dieu? Si vous l'êtes, si vous êtes enfant engendré de Dieu, vous devriez toujours faire sa volonté, lui obéir. Lorsqu'il s'agit d'un choix entre sa volonté et la vôtre, vous devriez faire la sienne, non pas la vôtre. Est-ce le cas? Est-ce le cas en ce qui vous concerne? Non pas de temps en temps, mais toujours. La vie est un ensemble de choix, de décisions, d'événements. Nous cédons souvent à notre nature humaine. Nous choisissons ce qui est facile, ce qui est agréable pour nous. S'il faut choisir entre ce qui est facile et difficile, nous nous penchons vers ce qui est facile sans vraiment en payer, vouloir payer les conséquences. J'allais commencer ce sermon par une question plutôt choquante. Je voulais vous dire, mentez-vous chaque jour à Dieu? Eh oui, je répète, mentez-vous chaque jour à Dieu? Mais comment pourrais-je mentir à Dieu, direz-vous, si je suis vraiment chrétien? Si je fais sa volonté, j'obéis à ses lois, je tâche d'être bon chrétien, je fais chaque jour régulièrement mes prières. Comment pourrais-je lui mentir? C'est là précisément le cœur de ma question. Vous dites à Dieu chaque jour dans vos prières que ta volonté se fasse. Et ensuite, pour une raison ou pour une autre, vous ne faites pas sa volonté mais la vôtre. Comment peut-il être ainsi si vous-même, vous ne faites pas sa volonté? Comment pourriez-vous dire si que ta volonté se fasse, alors que la plupart du temps, après avoir fait cette décision, vous dites, ensuite vous faites ce que vous voulez faire. Réfléchissez, je vous prie. Lorsque vous dites à Dieu que ta volonté se fasse, vous devez respecter cette condition. Sa volonté et non pas la vôtre. Certes, nous avons nos propres raisons pour faire notre propre volonté. Mais la plupart du temps, nos raisons sont fondées sur l'égoïsme, sur nos gains personnels, d'après notre nature charnelle. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, Dieu déclare, « Car mes pensées, notez-le, c'est Dieu qui parle, il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Autant les cieux, dit-il au verset suivant, sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je répète, c'est Dieu qui parle. Considérez par exemple la volonté de Dieu relative au sabbat. L'observez-vous, comme Dieu le dit. Dieu vous demande de l'observer chaque semaine, le septième jour. Mais se rendre à l'église chaque sabbat et être avec les membres de l'église ne suffit pas, voyez-vous. Ce n'est pas nécessairement faire sa volonté, aller à l'église chaque sabbat. Il y a diverses façons d'observer le sabbat, de se jouir ce jour-là. Si l'observance du sabbat n'est qu'une obligation pour vous, une routine, une chose que vous devez faire, dans ce cas-là, vous vous trompez. Cela ne suffit pas. Faire la volonté de Dieu, c'est plus que ça. Observer le sabbat, c'est plus que ça. Dans nos conversations avec les autres, des amis ou autres, ou membres de famille, souvent nous disons, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Après ça, certes, vous êtes libre d'écouter les conseils qu'on vous donne ou non, mais ce n'est pas ainsi avec Dieu. Lorsque vous dites à Dieu que ta volonté soit faite, dès ce moment-là, vous êtes obligé de l'écouter et de mettre en pratique ce que Dieu vous dit. Avec des amis, vous pouvez laisser leur volonté de côté si vous voulez, mais non pas ainsi avec Dieu. Dans Proverbes chapitre 11, verset 14, nous lisons « Quand la prudence fait défaut, écoutez bien, la prudence fait défaut, le peuple tombe. Réfléchissez à cela. Et le salut, ajoute la Bible, est dans le grand nombre de conseillers. Il y a des gens qui lisent la Bible à leur façon. Par exemple, ils prennent ce verset et commencent à dire maintenant, si le salut est dans le grand nombre de conseillers, il faut que je puisse chercher à gauche et à droite des gens qui seraient d'accord avec moi. Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut lire la Bible. Lorsque la Bible dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers, cela ne signifie pas que vous deviez vous aller de ministre à ministre, d'ami à d'ami, jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui serait d'accord avec vous. Ce n'est pas ça du tout. Et pourtant, c'est ainsi que beaucoup de gens interprètent ce verset. Autrement dit, il ne faut pas marchander. Il ne faut pas vraiment aller d'un homme à l'autre pour trouver quelqu'un qui serait d'accord avec vous. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, j'ai connu quelqu'un qui est distingué, très riche, qui observait le sabbat à sa façon. Il avait un grand commerce. Et dans ce commerce qu'il avait, il fallait qu'il travaille le jour du sabbat quelques semaines seulement par an. Alors, il se justifiait, il disait, écoutez, je garde le sabbat, je travaille les autres jours de la semaine, d'accord, je travaille le sabbat seulement quelques jours par année, mais le reste du temps, disait-il, Dieu me comprend parce que je gagne beaucoup d'argent, je verse mes dîmes, et je suis riche, et je fais du bien, ainsi de suite. Pensez-vous vraiment que cet homme faisait la volonté de Dieu? Selon sa décision, ou bien selon la décision qu'il avait prise, il faisait la volonté de Dieu. Mais dans ce cas particulier, où il cherchait quelqu'un, et il allait de ministre en ministre, d'ami en ami, qui serait d'accord avec lui. Parce que son raisonnement était, je fais du bien à tout le monde, je gagne bien, je prends soin de ma famille, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que Dieu peut me condamner? Voyez-vous, toujours est-il qu'il continuait à travailler quelques semaines par an, le jour du sabbat, ce faisant, il ne faisait pas la volonté de Dieu. Où est-il aujourd'hui? Je ne sais pas, mais j'ai entendu qu'il était malade, il ne pouvait plus gagner sa vie, il a presque tout perdu. Une chose est certaine, mes frères et mes sœurs, lorsque vous dites à Dieu que ta volonté soit faite, soyez absolument certain, absolument sûr qu'il s'agit vraiment de sa volonté que vous cherchez et non pas de la vôtre, et non pas de quelqu'un d'autre. Du christianisme aujourd'hui, je parle maintenant du christianisme du monde que la plupart des chrétiens observent, est plein de compromis. On obéit à Dieu avec les commandements avec lesquels nous sommes d'accord. Les chrétiens du monde, d'une façon générale, choisissent les commandements qui leur plaisent. Et ils prétendent de faire ainsi la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas ainsi que vous faites la volonté de Dieu. Observer une partie seulement de la loi divine n'est pas du tout l'observer. On ne peut pas être moitié vivant, moitié mort. Non, ce qui est écrit dans la Bible, nous devons le considérer comme étant la parole de Dieu et vraiment faire sa volonté en toutes choses. À titre d'exemple, dans Jacques chapitre 2, verset 10, nous lisons, « Car quiconque observe toute la loi, notez-le, toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » C'est sérieux. Autrement dit, vous avez beau observer tous les commandements de Dieu, sauf un, vous êtes coupable de pécher contre tous les commandements. Vous connaissez peut-être l'histoire du roi Clovis. C'était un roi qui s'intéressait à une princesse chrétienne et il voulait savoir ce qu'il devait faire, lui, pour changer sa vie, pour être lui-même chrétien. Quelles étaient les choses qu'il devait, dans sa vie, observer ou cesser d'observer? Vous connaissez la réponse qu'il a reçue. On lui a dit... C'était un roi païen, évidemment. la princesse était chrétienne, on lui a dit « Brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. » En est-il ainsi, mes frères et mes sœurs, en ce qui vous concerne. Si vous pensez être chrétien, bien que vous soyez, mettons, baptisé, faites-vous toujours la volonté de Dieu. Vous faites, certes, ce que vous pensez être juste. Vous vous êtes fait baptiser, vous vous êtes repenté de vos péchés, et vous êtes mort au péché, comme vous comprenez. Mais, et aussi, vous dites, j'observe les lois divines, ses commandements. Mais la question est, observez-vous tous les commandements? Je dis bien tout, y compris chacun des 10 commandements, non pas à votre façon, mais à la sienne. Si ce n'est pas le cas, comment pourriez-vous dire que ta volonté se fasse? Je parlais du sabbat. Voyez-vous, le sabbat est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau en même temps. Le Christ a observé le sabbat, il dit de l'observer aussi. C'est le Christ qui ouvre notre intelligence, mais pour ça nous devons nous toujours nous tourner vers lui, toujours faire sa volonté. À titre d'exemple, prenez Jean, chapitre 6, versets 43 à 46, et je cite, « Lorsque les gens lui parlaient, le Christ leur a dit, « Ne murmurez pas entre vous. » Verset 43. Verset 44. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est le Christ qui parle. « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Notez cela. C'est le Christ qui nous ressuscite. Le dernier jour, c'est lorsque nous sommes à la fin de notre vie et que, selon la volonté de Dieu, nous serons ou bien jugés pour entrer dans la vie éternelle ou la mort éternelle. Et le Christ continue. Il est écrit dans les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, principalement, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu ses enseignements a vu le Père. A vu le Père dans ce sens que vous êtes proche de Dieu, vous faites sa volonté. Ainsi, Dieu devient une partie de vous. Je vous ai souvent dit, mes frères et mes sœurs, dans mes sermons, ou plutôt, cité dans mes sermons, le cas d'un jeune homme dans la Bible qui observait les commandements de Dieu. Et c'était juste parce que le Christ l'a reconnu. Cet homme-là, il cherchait le royaume de Dieu. Donc, il voulait, contrairement aux autres personnes dans ce monde, dans les chrétiens, il observait les commandements de Dieu d'après sa compréhension. Et il est venu auprès du Christ pour savoir s'il y avait quelque chose d'autre encore à faire. Quelle a été la réponse du Christ? Il voit devant lui un homme qui, entre guillemets, est chrétien, qui cherche la volonté de Dieu et qui demande au Christ qu'est-ce qu'il y a encore à faire. La réponse du Christ, nous trouvons dans Matthieu chapitre 19, versets 11 à 22, je cite, Jésus lui dit, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, ou bien si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, c'est difficile, vous savez, lorsque vous êtes très riche, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Voyez-vous, c'est trop demandé. Après cela, au verset 22, nous lisons que le jeune homme, après avoir entendu ces paroles, fut triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Voyez-vous, cet homme ne voulait pas se débarrasser de sa richesse ou s'en décharger pour faire la volonté de Dieu. Il voulait être disciple du Christ sans se détacher de ses possessions matérielles. Alors, je vous demande un peu, faisait-il la volonté de Dieu? Et pourtant, il cherchait la volonté de Dieu. Il disait, « Que veux-tu que je fasse ?» Était-il disposé à s'y soumettre? Non, certainement pas. Mais c'est ainsi que la plupart des gens agissent aujourd'hui. Ils cherchent la volonté de Dieu, mais entre-temps, ils vont de l'avant avec leur propre volonté. À travers la Bible, nous trouvons souvent de tels exemples. Même le premier couple, Adam et Ève, qui avaient pourtant toutes les raisons du monde, pour ainsi dire, obéir à Dieu. Ils avaient toutes les bénédictions possibles. Et Dieu leur avait dit qu'il ne faut pas qu'ils mangent de l'arbre défendu, que le jour où ils en mangeaient, ils mourraient. Alors, ont-ils fait la volonté de Dieu? Ont-ils pris le chemin que Dieu leur avait montré? Hélas, non. Posez-vous la question suivante, je vous prie. Si vous êtes vraiment membre de l'Église de Dieu et que vous allez à l'Église chaque semaine, pourquoi Dieu vous a-t-il appelé, vous, et non pas quelqu'un d'autre? Examinez-vous vous-même, regardez autour de vous les amis que vous avez, ou même les membres de votre famille. Vraiment, êtes-vous le meilleur pour que Dieu vous choisisse? Pourquoi vous a-t-il choisi vous et non pas quelqu'un d'autre que vous connaissez ou un autre membre de la famille? On n'en peut douter, la plupart des gens qui sont autour de vous sont plus intelligents que vous, plus talentueux que vous. Ils ont plus à offrir que vous. Et pourtant, Dieu vous a choisi vous, qui, en principe, d'une façon générale, comme nous tous, nous n'avons pas grand-chose à lui offrir. Alors pourquoi, je répète, pourquoi Dieu ne les a-t-il pas choisis, eux, qui sont meilleurs que vous ou que moi, et qu'il vous a choisi vous et moi? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons à lui offrir? Lorsque vous examinez les choses à cette façon, vous pouvez voir qu'il y a certaines responsabilités que vous devez assumer si Dieu vous a appelé. Et que si vous êtes dans l'Église de Dieu, dans la famille divine, vous devez faire le travail que vous avez, le meilleur travail possible. La meilleure façon de travailler. C'est pour cette raison que Dieu vous a appelé. C'est sa volonté. Il sait ce que vous pouvez faire. Mais vous, vous devez aller jusqu'au bout. Faire de votre mieux. Faire la volonté de Dieu afin que vous puissiez dire, Dieu, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais ce que j'ai, je t'offre de tout mon cœur. Les conditions du monde peuvent changer. Votre vie peut changer. Mais vous avez une obligation absolument certaine, c'est que si Dieu vous a appelé, quel que soit le changement dans votre vie, vous devez être sûr que vous faites la volonté de Dieu de la meilleure façon possible. C'est ça sa volonté. C'est ça que vous devez absolument comprendre. C'est ça la raison principale pour laquelle Dieu vous a appelé, vous et non pas d'autres. Parce qu'il sait que vous avez la possibilité, vous avez le désir de faire sa volonté. Dès ce moment-là, mes frères et mes sœurs, ne regardez pas à gauche ni à droite, mais tâchez de vous dire vous-même, est-ce que je fais la volonté de Dieu? J'ai souvent rencontré des membres de l'Église qui m'ont dit, franchement, je n'ai absolument rien à offrir à Dieu. Je n'ai absolument rien à lui donner, pourtant, on me dit que je suis appelé, moi, et pas les autres. Mais franchement, je n'ai pas grand-chose, disent-ils. Bon, je suis d'accord avec eux, je suis d'accord avec vous, si vous-même vous pensez de la même façon, mais je vous pose la même question. Quelles que soient les qualités que vous avez, quels que soient les talents que vous avez, faites-vous toujours de votre mieux pour obéir à Dieu et pour vous servir de ces talents de la meilleure façon possible. Ce n'est pas une question d'avoir de grands talents. La question que je vous pose est toujours la même. Faites-vous de votre mieux pour vous servir de la meilleure façon possible pour faire la volonté de Dieu. Je répète, c'est ça, faire la volonté de Dieu. Les gens se comparent souvent entre eux-mêmes. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce faisant, ils se mettent sur un chemin qui les conduit tend vers la mauvaise direction. Ne vous comparez à personne. Demandez à Dieu chaque jour quelle est sa volonté. Ensuite, faites de votre mieux de profiter de vos talents, des talents qu'il vous a donnés, et allez de l'avant avec ça. Ne vous comparez pas aux autres. Si Dieu vous a choisi, ne continuez pas à vous dire, mais pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Je répète, si vous ne comprenez pas, laissez Dieu agir, mais faites de votre mieux ce que vous faites. C'est ça, la volonté. C'est pour cette raison qu'il vous a choisi. Après cela, je répète, faites de votre mieux le travail qui vous a été confié. Souvent dans mes sermons, je cite la parabole, la parabole des talents. Elle se trouve dans Matthieu chapitre 25. Lisez-la sincèrement, profondément, et tâchez de comprendre le sens de cette parabole. Laissez-moi du reste vous en citer quelques versets. Matthieu 25, versets 14 à 15, Dieu dit, « Il en sera de même comme un homme qui, partant pour un voyage, le Christ se compare ici à un homme qui part à un voyage, appela ses serviteurs, donc vous et moi, et leur remit ses biens. » C'est ce que nous avons. Quelle que soit notre tâche dans l'Église de Dieu, nous avons quelque chose à faire. Un petit quelque chose, ça n'a pas d'importance, mais faites de votre mieux. Profitez de l'occasion pour faire de ce talent le mieux possible. J'ajoute, verset 15, donc cet homme de grand talent, cet homme distingué, donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième. Alors, si c'est ainsi, on dirait, mais écoutez, c'est pas juste. Pourquoi 5 à 1, 2 à 1 et 1 au troisième? Eh bien, la réponse est simple. Ce verset dit, il leur remit ses biens, il donna ainsi, parce que à chacun selon sa capacité. Notez-le, verset 15, selon sa capacité. Donc, Dieu est juste. Il ne demandera pas quelque chose que vous ne pouvez pas donner. Ici, celui qui a reçu 5, ou 2, ou 1, chacun a reçu selon sa capacité. Pourquoi cela direz-vous? Parce que le maître de la maison, dans cette parabole, connaissait la capacité de chacun. Alors, il s'attendait à ce que tous fassent quelque chose de leur mieux. Fait-il exception de personne? Humainement parlant, peut-être oui, mais en réalité, non. Si je vous demande quelque chose que vous pouvez donner, mais c'est normal. Vous ne pouvez pas dire, je ne peux pas faire, si, je sais que vous pouvez faire, donc faites-le de votre mieux. C'est ça, la volonté de Dieu. Dans cette parabole, voyez-vous, chacun a reçu selon sa capacité, et non pas au-dessus de leur capacité. Je répète, Dieu ne vous demande pas quelque chose que vous ne pouvez pas donner. La Bible précise, je répète et je répéterai encore parce que, mettez ça dans la tête, chacun reçoit selon sa capacité. Vous avez reçu selon votre capacité. J'ai reçu selon ma capacité. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous fassions chacun le mieux possible. En lisant le reste de cette parabole, vous verrez que celui qui avait reçu 5 talents a pu rendre au maximum. Il a fait de son mieux et il en a produit 5 autres talents. Il en a de même en ce qui concerne celui qui avait reçu 2 talents. Mais voyez-vous, celui qui avait reçu 5 talents, il n'a pas produit 10, mais il n'a pas produit 2 non plus. Il a fait le maximum. Quelle a été sa récompense? Et ce sera la récompense pour vous, bien pour moi. Le maître, verset 21, son maître lui a dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur. » Voyez-vous, Dieu vous apprécie. Il dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Ensuite, il ajoute, « Entre dans la joie de ton maître. » La joie de ton maître signifie le le paradis, non pas le paradis tel que les hommes connaissent, mais le paradis tel que la Bible décrit, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Donc, celui qui avait produit saint talent, il sera dans le royaume de Dieu. Il vivra avec le Christ. Il sera un serviteur utile. Je répète, il en est de même en ce qui concerne celui qui avait reçu 2 talents. Il n'avait pas reçu 5, mais 2 seulement. Il n'avait pas reçu 1, mais 2. Alors, le Christ ne s'attendait pas de cet homme d'en produire 5 ou 10, ni même 1. Il fallait qu'il produise selon sa capacité, et sa capacité était de produire 2 talents. Il a réussi. Il a produit 2 talents. Et vous savez quoi? Il a reçu la même récompense que le premier. Réfléchissez à tout cela, mes frères et mes sœurs. Vous-même, vous avez reçu 1 talent. Je ne sais pas lequel, vous le savez. Peut-être absolument c'est rien à comparer au talent de quelqu'un d'autre. Ça n'a pas d'importance. Faites du talent que vous avez reçu, ou des talents que vous avez reçus, le maximum possible, sans vous comparer aux autres. Voyez-vous, vous direz, je n'ai pas grand-chose, d'accord, mais vous avez quand même quelque chose, et c'est pour ce quelque chose que Dieu vous a appelé. Dans ce cas-là, allez de l'avant, foncez à toute force et faites de votre mieux. Ne vous comparez pas, je répète, aux autres. Si vous produisez selon vos capacités, vous avez fait la volonté de Dieu. Je répète et je répéterai parce que c'est là. Voilà pourquoi vous êtes parfois découragé. Vous êtes parfois, vous dites, mais pourquoi moi et non pas quelqu'un d'autre à ma place? Eh bien, la réponse est toujours la même. Vous avez reçu ce que vous pouvez faire et selon la capacité que vous avez, Dieu veut que vous puissiez produire autant que possible selon vos capacités, et vous aurez votre récompense. Voyez-vous, c'est là un soulagement formidable. C'est là une consolation fantastique. Je peux toujours dire, quand je suis découragé, ou vous pouvez dire quand vous êtes découragé, pourquoi Dieu m'a-t-il appelé? Il sait ce que je peux faire. Et il ne demande pas plus que je peux en donner. Mais il demande que tout ce que je peux en donner, tout ce que je peux faire, et je sais que quel que soit vos talents, quel que soit mes talents, il y a beaucoup plus que vous pouvez faire et que je peux faire parce que nous ne travaillons pas au maximum. Aucun de nous ne travaille comme il devrait travailler. Parfois, vous pouvez voir quelqu'un qui n'a absolument rien, mais qui a une volonté fantastique, une attitude fantastique. Alors, quelquefois, vous dites, vous savez, je respecte cet individu parce que cet individu fait la volonté de Dieu, parce qu'il met en pratique ou bien en évidence tout ce qu'il peut vraiment faire. Je répète, en est-il ainsi en ce qui vous concerne? C'est un soulagement fantastique que de savoir que Dieu ne vous demande pas plus que vous pouvez en donner. Par contre, si vous vous laissez tromper par vos faux raisonnements et que vous ferez ce que vous devriez faire et que vous ne faites pas, dans ce cas-là, vous n'êtes pas un serviteur utile. Examinez par exemple le 3e serviteur qui était appelé et qui avait reçu 1 seul talent. Ce serviteur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas servi de son talent. Il avait des excuses. Je ne sais pas quelles étaient ses excuses, mais de toute façon, il n'a pas fait la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son talent, il l'a enterré, et lorsque le moment est venu pour rendre compte, il a donné des excuses. Ses propres excuses qui ne valent pas grand-chose, vos raisonnements ne valent rien lorsque Dieu vous a appelé, lorsque Dieu vous a confié un certain nombre de talents. Votre récompense sera d'après ce que vous faites, ce que vous avez reçu. Mettez ça dans la tête une fois pour toutes, je vous prie. Alors, cet homme qui avait reçu un seul talent, il a eu toutes sortes d'excuses. Il était méchant, il blâmait, je ne sais pas quoi, on n'avait qu'à dire le reste vous-même. Et il a reçu, évidemment, une récompense selon ce qu'il n'avait pas fait. Notez-le. Verset 26. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, c'est ce que le serviteur avait donné comme raison, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent, au moins, au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré quelque chose, ce qui est à moi, avec un intérêt. » Et il a dit, « Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents, c'est-à-dire celui qui avait 5 et qui a reçu 5 autres. » Et quelle a été la conclusion du Christ? Il a dit, « Car on donnera à celui qui a, c'est-à-dire, vous avez quelque chose, vous faites quelque chose, vous en faites valoir quelque chose, alors vous recevrez. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et le serviteur inutile, il digita-le dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est-à-dire le châtiment éternel, mort éternelle. Dieu est toujours bon, toujours juste, toujours compatissant. Il ne fait pas exception de personne. C'est sa volonté que nous puissions tous parvenir à la vie éternelle. Mais il faut, je répète et je répéterai, mais il faut que nous puissions donner le maximum que nous pouvons donner, selon nos capacités. Il ne fait pas, je répète et je répéterai, il ne fait pas d'exception de personne. C'est sa volonté que nous fassions notre part et dans toutes nos pensées, dans tous nos actes, vous devez toujours avoir cette assurance que Dieu veut que nous puissions parvenir au succès. Ne cherchez pas des excuses qui vous donneraient satisfaction personnellement parlant. C'est ce que le méchant serviteur faisait. Non. Souvent, la nature humaine que nous avons nous fonce ou bien nous pousse à trouver des raisons pour lesquelles nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Ne cherchez pas de vains raisonnements. Ne cherchez pas des raisonnements charnels. Faites la volonté de Dieu, rendez au maximum les services que vous pouvez rendre, produisez selon vos capacités au maximum. Vous pouvez être certain que vous faites la volonté de Dieu. Laissez-moi vous citer les paroles du roi David. Lui était un roi, un individu, selon le cœur de l'Éternel. C'est ce que nous lisons dans Psaume chapitre 40, verset 9. Laissez-moi le citer. « Je veux faire ta volonté, dit David. » Il parle à Dieu. Il dit, « Je veux faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. » Réfléchissez à ce verset. Pouvez-vous dire, quel que soit votre âge, votre sexe, votre nationalité, vos connaissances, vos talents, pouvez-vous dire à Dieu, « Je vais faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. » Voilà. Voilà votre examen. Voilà la preuve. Souvenez-vous que Dieu ne demandera pas à qui que ce soit plus que cet individu peut donner. Faire sa volonté, comme David le disait, aimer la loi de Dieu, respecter les commandements de Dieu et toujours être sûr que ce que Dieu demande n'est pas au-dessus de vos moyens de produire. Il y a des exemples frappants dans la Bible d'individus dont la condition devrait nous inspirer. Et oui, il y a par exemple celui de l'apôtre Paul. Paul était un homme capable, avant d'être appelé, Il avait une bonne fonction, il avait de grandes capacités, il avait aussi beaucoup de respect de la part des autres personnes qui étaient sur lui. Autrement dit, Paul était un homme que ceux qui étaient autour de lui le respectaient. Alors, pourquoi lui voudrait abandonner ce qu'il a et accepter l'offre que Dieu lui ferait et que volontairement il laisserait de côté toute cette abondance et qu'il choisirait de devenir chrétien, d'observer les lois de Dieu et ensuite même être persécuté et en fin de compte mourir. C'est ce qui est arrivé. Lorsque Dieu l'a appelé, il avait le choix, lui, d'obéir ou de ne pas obéir. Mais voyez-vous, lorsque Dieu a appelé l'apôtre Paul, avant qu'il fût vraiment apôtre Paul, lorsqu'il a été frappé sur le chemin de Damas, Paul a posé une question. Il a dit, « Que veux-tu que je fasse ?» C'est ça qui compte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Christ lui a révélé la volonté divine. Dès ce moment-là, je répète, dès ce moment-là, Paul ne s'en est jamais détourné. Voilà le secret. Il a fait des fautes, comme nous tous, certes, mais il a toujours fait, cherché à faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui encore, celui qui a écrit dans la Bible 14 épîtres. 14 épîtres où il nous dit comment faire la volonté de Dieu, comment souffrir s'il le faut, comment choisir une voie qui n'est pas facile, mais qui constitue quand même la volonté de Dieu. Je répète, en est-il ainsi? Est-ce ainsi que vous faites, vous, la volonté de Dieu? Est-ce ainsi que vous cherchez à le servir? Paul a beaucoup, beaucoup souffert. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a été persécuté même par les chrétiens au début. Et pourtant, il n'a jamais oublié la réponse qu'il a reçue lorsqu'il a demandé au Christ, « Que veux-tu que je fasse ?» Le Christ lui a répondu, « Vous n'avez qu'à lire la Bible. » Et dès ce moment-là, Paul, quelles que fussent les conséquences, il ne s'est jamais détourné de Dieu. En est-il ainsi en ce qui vous concerne? Vous aurez des souffrances dans la vie. Vous aurez des persécutions. Vous perdrez des amis. Il se peut même que vous perdiez un membre de votre famille à cause de votre religion. Tout est possible. Mais faire la volonté de Dieu, c'est de vous rappeler la raison pour laquelle vous êtes appelé, c'est-à-dire de vous servir du talent que vous avez, quel que fût ce talent, et ensuite ne vous en détournez jamais. C'est cela, la volonté de Dieu. C'est ainsi que vous pouvez être béni. Dans Psaume chapitre 143, verset 10, nous lisons un verset magnifique. Vous savez, parfois, si on prend un verset quelconque, comme celui-ci, et on médite, et on fait, on met en pratique, on a déjà fait la volonté de Dieu, on a déjà presque atteint le but, à condition qu'on s'y accroche. Notez-le. Psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Chaque fois que vous priez à Dieu, dites-moi, dites-lui, « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Que ta volonté se fasse. Ensuite, « Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » C'est beau ça. Vous dites à Dieu, « Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté. » Voyez-vous, lorsque Dieu a appelé les Israélites à être son peuple, ils ont écouté Dieu, ils ont écouté les commandements de Dieu, et ils ont promis de faire la volonté de Dieu. Ils avaient peur d'abord au commencement d'entendre la voix divine. Ils ont demandé à Moïse de parler lui-même et non pas Dieu. Mais ils ont dit, nous ferons ce que Dieu te dit. Ils ont fait une promesse, ils ne l'ont pas tenue. Ils voulaient être bénis et Dieu voulait qu'ils fussent bénis. Dieu voulait que ce peuple-là ait plus que les autres peuples. Voilà pourquoi il les a appelés. Et voilà pourquoi il leur a donné les 10 commandements que nous avons aujourd'hui. Et eux, ils ont dit, nous ferons ce que Dieu veut que nous fassions. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Ils n'ont pas tenu promesse. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils voulaient être comme les autres nations. Avoir un dieu humain à leur tête. Étrange. Ils souffraient. Ils cherchaient l'aide divine. Ils l'ont eu. Et après cela, ils ont fait une promesse en disant, nous ferons ta volonté. Et pourtant, ils ont commencé à suivre des idoles, des lois païennes, des gens qui avaient d'autres dieux devant eux et qui n'observaient pas, eux, les commandements divins. Prenez les paroles du prophète Malachi. Lui, il a écrit un livre très intéressant parce qu'il montre dans son livre qu'il a écrit, ce dernier livre de l'Ancien Testament, et il dit au peuple, c'est la parole de Dieu, il dit au peuple, écoutez, vous connaissiez la volonté de Dieu, Dieu vous avait donné ce que vous demandiez, et pourtant vous n'avez pas fait, et pourtant tout au long de ce chapitre, vous verrez les gens qui vont disputer. Ils se disputent avec Dieu. Tu n'as pas donner ce que tu devais nous donner. C'est cette idée tout au long du chapitre. Et Dieu, dans sa bonté, a montré au peuple, écoutez, voilà où vous vous êtes détourné de la loi divine. Et chaque fois, ils ont dit, mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? C'est cette nature humaine qui vous pousse à chercher des raisonnements charnels qui vous donneraient raison à vous. Ne cherchez pas vos propres raisonnements. Si vous connaissez la volonté de Dieu, si vous connaissez les lois divines, ne dites pas « qu'ai-je fait ?» Vous savez fort bien « qu'avez-vous fait ?» Comme un enfant qui ne comprend pas, il prétend « je ne sais pas, je ne comprends pas ». Ne soyez pas comme un enfant désobéissant. Soyez comme un enfant obéissant qui dit « que veux-tu que je fasse ?» Et ensuite, faites votre part. Tout au long de ce chapitre, dans Malachi, les gens demandaient à Dieu, mais qu'avons-nous fait pour subir les conséquences de ce qui se passe? Et chaque fois, Dieu a donné la réponse. Mais chaque fois, ils ont cherché d'autres raisonnements humains. Par exemple, dans Malachi, chapitre 1, verset 6 à 7, nous lisons, un fils honore son père. Voyez-vous, Dieu prend à un niveau que nous comprenons tous. On ne peut pas dire « je ne comprends pas la Bible ». Il parle comme un père humain qui parle à un fils humain. Un serviteur à son maître. « Si, dit-il, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Quels sont les hommes aujourd'hui? Quelles sont les nations? Quelles sont les religions qui respectent Dieu comme Dieu le dit dans la Bible ?» Voilà pourquoi, voyez-vous, il dit, vous êtes un serviteur, vous ne respectez pas. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? C'est Dieu qui parle. Qui méprise mon nom et qui dit, en quoi t'avons-nous méprisé ton nom? Autrement dit, Dieu répond à nos questions qui sont banales, à une façon que nous puissions comprendre. Il dit, verset 7, toujours chapitre 1, « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, vous dites, en quoi t'avons-nous profané ?» C'est ridicule. Ils offrent des aliments impurs, ils disent, en quoi t'avons-nous profané ? Et Dieu répond, « La table de Ténel est méprisable. » Vous l'avez méprisée, vous n'avez pas obéi à mes commandements. Dans Malachi chapitre 2, versets 13 à 14, je prends quelques versets parce que ça vaut la peine de vous aider à comprendre la nature humaine, comment elle raisonne, comment vous raisonnez, comment moi je raisonne. Malachi 2, versets 13 à 14. Voici encore, dit-il, ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, à vos offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi, autrement dit, on prétend obéir à Dieu, on prétend lui offrir des offrandes, et même les dîmes, et on dit, en quoi n'avons-nous pas fait ta volonté? Et Dieu répond, verset 14, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et ta femme de la jeunesse, à laquelle tu as été fidèle. Tu étais fidèle, ensuite tu l'as abandonnée. Je paraphrase. Autrement dit, tout au long de notre vie, nous faisons notre volonté, nous cherchons à plaire à notre nature humaine. Et ensuite, si nous récoltons des conséquences, nous disons à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu nous punis? Au verset 17, nous disons, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Eh oui, lorsque vous priez, soyez sûr que vous ne fatiguez pas l'Éternel par vos vaines paroles. En disant, en quoi t'avons-nous fatigué? Et Dieu répond, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et Dieu répond, c'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Celui qu'il prend plaisir, eh bien, où est le Dieu de la justice? Prenez le temps, mes frères, de lire le chapitre tout entier. Dieu répond à chacune des questions du peuple. Et le peuple prétend ne pas comprendre. Et le peuple prétend quand même avoir fait la volonté de Dieu. Voici encore dans l'Ancien Testament un exemple intéressant. 1 Samuel, chapitre 15, versets 1 à 3. Samuel dit à Saül, Saül c'est le roi, Samuel c'est le prophète de Dieu. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple, Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel, verset 2. Je me souviens de ce que Amalek a fait à Israël lorsqu'il a fermé le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, dit Dieu, verset 3, c'est Dieu qui parle. Frappe Amalek, déboué par interdit ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas, c'est Dieu qui parle. Tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je sais que Dieu sait tout. Cette ordonnance, inadmissible humainement parlant, à l'esprit, le charnel de l'homme, a une réponse. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu voulait punir Amalek et ce peuple-là. Mais ces gens-là ne sont pas punis éternellement. Ils ont leur occasion un jour de se repentir. Mais Dieu leur offrait une occasion de se repentir d'une autre façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que Saül, le roi, devait faire, c'était obéir à Dieu. C'est comme un père qui donne un ordre à son enfant. Tout ce que l'enfant doit faire, vraiment, s'il veut être un bon enfant, faire ce que son papa lui dit. Saül aurait pu être un grand roi. Il aurait pu être même à la place de David, le roi d'Israël. Mais non, il a perdu sa chance, pour ainsi dire. Pourquoi? Notez-le, verset 9. Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes. Pourquoi? Les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit. Mais meilleur aux yeux de qui? Dieu avait dit, prends et détruis-les tous. Alors, humainement parlant, Saül et son peuple mettent de côté les meilleurs. Ils dévouèrent seulement, dit la Bible, tout ce qui était méprisable et chétif. Voyez-vous, Saül a-t-il fait la volonté de Dieu? Non. Saül a choisi le meilleur d'après ses propres raisonnements, d'après sa propre entente. Et lorsque le peuple a pris ce qui était bon, ce qui était bien, Saül et le peuple ont eu leur propre excuse. Ils ont agi d'après leur propre jugement. Autrement dit, leur obéissance à Dieu n'était que partielle, d'après leur propre raisonnement. En fin de compte, vous savez, vous n'avez qu'à lire le reste, ils ont tout perdu. Comme Dieu leur avait dit, ils ont vraiment tout perdu. Ensuite, au verset 23, un verset magnifique que je voudrais que chacun de nous, dans l'Église de Dieu, nous puissions répéter ce verset, non pas comme un perroquet, mais répéter chaque fois que nous sommes en présence d'un événement que nous ne comprenons pas. L'obéissance est indispensable pour faire la volonté de Dieu. Ce verset, c'est verset 23. Regardez voir les paroles du prophète. Il dit, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » Puisque, dit-il, c'est le prophète qui parle, « Tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Voilà la punition du roi Saül, et en même temps du peuple. Voyez-vous, il avait tout ce qu'il pouvait avoir, rêver d'avoir, tout. Il aurait pu être le roi d'Israël à jamais. Il a perdu, parce qu'il n'a pas compris que la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance. Lisez ces choses. Lisez-les en leur entier. Lorsque vous dites à Dieu, j'ai fait ta volonté, soyez sûr que vous ne mentez pas. Soyez sûr que vous n'avez pas des exceptions dans votre tête qui sont agréables à vous et que vous acceptez vous-même, mais ce n'est pas ainsi que vous faites la volonté de Dieu. Prenez Romains 12, chapitre 12, versets 1 à 2. Regardez voir l'attitude de l'apôtre Paul une fois encore. C'est comme ça qu'on peut arriver à plaire à Dieu. Comme je vous ai dit, Paul a tout abandonné pour suivre le Christ, pour être persécuté, pour être calomnié, même rejeté par beaucoup de chrétiens. Paul écrit, Romains 12, versets 1 à 2, il nous dit à nous tous, « Je vous exhorte, frères, dit-il, par les compassions de Dieu, cherchez à votre convenance le mot compassion. Chaque fois que Dieu a compassion, un miracle s'ensuit. » Donc, Paul écrit, « Je vous exhorte par les compassions de Dieu. » À faire quoi ? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, non pas mort. Vivant parce que vous êtes vivant, vous savez ce que vous faites, vous êtes prêt à choisir la volonté de Dieu, même si vous devez payer les conséquences. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ajoute l'apôtre Paul. Ensuite, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que quoi ? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voilà. Voulez-vous chercher la volonté de Dieu ? Voilà ce que vous devez faire. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Réfléchissez à ces paroles. Demandez toujours à Dieu que ta volonté se fasse, mais après l'avoir dit, faites sa volonté. Ne cherchez pas des excuses comme Saül et d'autres ont fait, comme Adam et Ève ont fait. Faites sa volonté. Il se peut que à l'occasion, sa volonté ne serait pas facile à vos yeux, mais faites sa volonté quand même. S'il faut sacrifier quelque chose, sacrifiez-le. Parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Sa volonté, c'est que vous puissiez entrer, vous, dans la vie éternelle. Débarrassez-vous de vos pensées humaines, de vos raisonnements humains. Faites la volonté de Dieu. Voyez-vous, la volonté de Dieu est que vous puissiez, un jour entrer dans le royaume de Dieu. C'est que vous puissiez un jour être membre de la famille divine. C'est pour cette raison que le Christ est mort. C'est pour cette raison qu'il a donné sa vie. C'est pour cette raison que nous sommes nés. Et que nous sommes nés pour faire la volonté de Dieu. Laissez-moi vous citer quelques versets bibliques qui vous montrent comment faire la volonté de Dieu. Dans Jean, chapitre 5, verset 30, nous lisons, c'est le Christ qui parle, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. » C'est le Christ qui parle sur cette terre. « Je ne cherche pas ma volonté, dit-il, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Fantastique. Eh oui, fantastique. Dans Matthieu, chapitre 26, verset 40, nous lisons, « Le Christ s'éloigna une seconde fois. » C'était le moment de la crucifixion. « Mon Père, ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. » Voyez-vous, c'est clair. Il va mourir, mais que ta volonté soit faite. Dans Luc, chapitre 22, verset 42, nous lisons, « Père, dit-il, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est-à-dire ce châtiment que les hommes lui ont imposé, toutefois, dit-il, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Regardez voir ça. Il est en train de mourir, d'être condamné par les hommes injustement. Il répète que ta volonté soit faite. Quel est le sacrifice que vous-même vous pouvez faire ou que vous faites? Jean 6, verset 38. Ce sont des versets importants qui nous permettent de comprendre comment vraiment avoir la force nécessaire pour faire la volonté de Dieu. Jean 6, verset 38. Le Christ dit, « Quand je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, » Vous savez, le Christ a choisi lui-même de venir. Il n'a pas été forcé. Il n'a pas agi contre sa volonté ou bien la volonté divine. Il a choisi lui-même de venir sur cette terre, de mourir pour vous et pour moi, parce qu'il nous aime et il veut que nous soyons dans son royaume. Donc, le Christ est venu de sa propre volonté, de son propre chef, pour mourir. Et il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, souvent nous lisons la Bible les yeux fermés. Nous regardons des choses, nous ne nous rendons pas compte que nous disons que ta volonté se fasse et que, en réalité, nous faisons notre volonté. En réalité, nous faisons ce qui nous plaît. Faites ce qui plaît à Dieu. Demandez chaque jour à Dieu, donne-moi la force, je te prie. Donne-moi la compréhension, je te prie, afin que je fasse vraiment ta volonté, que je t'obéisse. Notez encore ce que le Christ dit dans Jean, chapitre 7, versets 17 à 18, et je cite, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. » Tout au long de l'Évangile, le Christ répète cela. Nous devons toujours nous demander si c'est vraiment la volonté de Dieu. Et ensuite, une fois que nous le comprenons, une fois que nous le savons, alors il n'y aura pas de doute dans notre esprit. Jean 7, verset 18, « Celui qui parle de son chef, dit le Christ, cherche sa propre gloire. Ne cherchez pas votre propre gloire. » Ne cherchez pas à être grand aux yeux des hommes. Ne cherchez pas à être riche. Ce n'est pas mauvais que d'être riche. Mais si la richesse vous fait perdre votre christianisme, dans ce cas-là, il vaut mieux être pauvre et tout abandonner, comme le cas du jeune homme qui ne voulait pas perdre tout ce qu'il avait. Ce que vous perdez, Dieu vous aidera à le récupérer en temps voulu. Je continue ce verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre volonté, sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est là notre but, c'est ce que nous devons chercher. Celui qui cherche donc la gloire de celui qui l'a envoyé, donc du Christ, celui-là est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. Le Christ parle ici de lui-même, de sa souffrance, de vous, de vos souffrances, de moi, de mes souffrances, à condition que nous puissions toujours vraiment faire sa volonté. Alors, mes frères et mes sœurs, revenons à la question principale que je vous ai posée. Mentez-vous à Dieu chaque jour dans vos prières lorsque vous dites « Que ta volonté se fasse ». Si ce n'est pas le cas, comment pouvez-vous vraiment en être sûr? Vous pouvez être sûr en toujours suivant l'exemple du Christ, en suivant ses pas lorsqu'il était sur cette terre, en ne pas craignant ce qui peut vous arriver, mais en étant tout à fait sûr que Dieu sait ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez faire, et que Dieu est un Père qui aime ses enfants, qui vous aime, vous, qui m'aime, moi, et que Dieu veut que nous, parfois même s'il le faut, par des souffrances, nous puissions arriver au but final, c'est-à-dire à être un jour dans la famille divine, des enfants glorifiés, des enfants pleins de bonté en nous, des enfants pleins de sagesse comme Dieu l'est lui-même, et vivre à jamais avec notre Créateur et avec notre Sauveur, le Christ.